des portes ouvertes les 14 et 15 septembre. Réservez votre place à secondaire.sainte-anne.ca.
Les gens me disent souvent de toi, c'est un communiste.
Ben oui, je sais bien.
Moi, j'arrête pas de dire, t'es pas un communiste, t'es un conservateur.
Ben oui, mais moi, je suis à droite dans son bien des sujets.
La commission avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez. En semaine, dès midi.
Au 98.5 Montréal. Au réseau Cogeco Média. Voici le Québec maintenant. Québec maintenant, avec Philippe Quentin.
Il est maintenant 18h. Bienvenue aux gens de la Mauricie qui se joignent à nous pour la dernière demi-heure de l'émission et pour notre duel de l'actu. Aujourd'hui, avec Philippe Léger et Geneviève Peterson, on pose la question: la démission de Pierre Fitzgibbon alimente-t-elle le cynisme envers les politiciens? Alors, j'ai bien hâte d'entendre leur réponse là-dessus. Je vous invite également à vous joindre à la conversation. Notre messagerie texte 98985. La démission de Pierre Fitzgibbon alimente-t-elle le cynisme envers les politiciens? Mais d'abord, les nouvelles avec Caroline Bertrand.
Les actualités Cogeco Nouvelles.
Bonjour Caroline.
Bonjour Philippe.
Alors les ministres Christian Dubé et Éric Girard ne veulent pas délaisser leur ministère.
Oui, bien sûr, parce qu'avec la démission de Pierre Fitzgibbon, le chef de la CAQ, François Legault, va devoir procéder à un remaniement de son cabinet, en plus du déclenchement de cette élection complémentaire dans la circonscription de Terrebonne. Les ministres de la Santé et des Finances, oui, Christian Dubé et Éric Girard, qui ont tous deux été questionnés à savoir s'ils souhaitaient obtenir ce poste de super ministre de l'Économie et de l'Énergie. Et les deux ont précisé qu'ils avaient encore du travail à faire dans leur propre ministère.
Je pense qu'il reste beaucoup de travail à faire du côté de la santé. Il reste un gros 2 ans pour faire arriver tous les projets qu'on a.
Le budget, la période de janvier à la fin mars est plutôt intense. C'est incompatible. Et on a une excellente équipe. Je pense que d'autres pourront assumer ces fonctions avec brio.
Je rappelle que selon les informations de notre bureau parlementaire, c'est la ministre Christine Fréchette qui sera nommée responsable de l'économie et du fameux projet de loi 69 sur la réforme de l'énergie. Jean-François Roberge serait nommé donc à l'immigration.
Oui, et puis il faut mentionner aussi que Christian Dubé et Éric Girard ont affirmé aujourd'hui qu'ils veulent compléter leur mandat. Alors donc, pas d'élection partielle dans les comtés qu'ils représentent là, avant la tenue du scrutin en 2026. Des regroupements s'inquiètent de la collecte de renseignements personnels des aînés vivant en RPA.
C'est une collecte, Philippe, qui est effectuée par la direction des inspections du ministère de la Santé. Les inspecteurs demandent donc aux résidences privées pour aînés de leur faire parvenir par courriel ou par la poste les noms complets, les dates de naissance, les numéros d'appartement de leurs résidents. Et il y a divers organismes qui craignent que cela augmente en fait les risques de fraude. On sait que c'est une population qui est à risque particulièrement. On va écouter le directeur général du réseau québécois des OSBL d'habitation, André Castonguay.
C'est simplement que je pense qu'il faut prendre les moyens pour que tout le monde se comprenne. Et que s'il y a une direction a besoin d'avoir ces renseignements-là, mais qu'il les justifie, et que ça se fasse d'une façon avec une protection qui est adéquate pour mettre en danger, justement, puis diffuser des informations personnelles.
Et aux États-Unis, on connaît maintenant l'identité de l'auteur présumé de la fusillade survenue dans une école secondaire. C'est en Géorgie que le drame s'est produit aujourd'hui.
Oui, le bureau des enquêtes qui a confirmé qu'il s'agit d'un jeune qui fréquentait l'établissement scolaire Colt Gray, âgé de 14 ans seulement. Bilan de la fusillade qui s'élève donc à 4 morts, 2 étudiants et 2 professeurs, 9 autres blessés. Et dans un point de presse diffusé par CNN, le directeur du bureau des enquêtes, Chris Hosey, a confirmé que des accusations de meurtre vont être déposées contre lui et qu'il sera jugé comme un adulte.
This is a murder investigation. The shooter is in custody. He is a 14-year-old student here at the high school. He will be charged with murder and he will be tried as an adult.
14 ans.
Ouais.
14 ans. Je pense que c'est le chiffre là, qui frappe l'imagination aujourd'hui. Et la Cour d'appel confirme une peine d'emprisonnement à perpétuité pour un membre de gang de rue reconnu coupable de tentative de meurtre.
En juin 2019, Hensley Jean avait fait feu à 2 reprises sur la mauvaise personne. Il avait planifié son crime et attendu sa victime pendant 4 heures, mais il ne savait pas que la résidence devant laquelle il patientait avait de nouveaux occupants depuis 2 jours. Il pensait faire feu sur un homme qu'il estimait responsable d'une série d'incidents. Incendie criminel. Alors, la Cour d'appel qui a confirmé sa peine aujourd'hui.
Merci beaucoup, Caroline. On se retrouve demain. Bonne soirée. Nous, on se dirige vers le duel de l'actu. Et puis, on va parler un peu politique.
À Montréal.
98.5.
Parce que vous voulez tout savoir au réseau Cogeco Média. Voici le duel de l'actu. C'est parti.
Oui, le duel de l'actu, c'est parti. Aujourd'hui, on rebondit sur la démission de Pierre Fitzgibbon, la nouvelle qui alimente l'actualité depuis le début de la semaine. Monsieur Fitzgibbon qui était en entrevue à l'émission un petit peu plus tôt aujourd'hui. Mais on peut poser la question, est-ce que sa démission alimente le cynisme envers les politiciens? Il quitte son siège là avant de compléter son mandat. D'ailleurs, je lui ai posé la question plus tôt aujourd'hui. Pensez pas qu'à quelque part, ça encourage le cynisme de la population, les députés qui complètent pas leur mandat?
Peut-être, puis je ne veux pas être juge des partis en même temps, évidemment, mais de l'autre côté, je ne pense pas qu'il y ait personne qui va reprocher à Pierre Fitzgibbon de ne pas avoir donné beaucoup au Québec et à Terrebonne pendant 6 ans. Ah oui, il n'y a rien de parfait, mais moi, je pars d'ici ce soir avec le sentiment du devoir accompli.
Alors, devoir accompli pour M. Fitzgibbon, à son avis, pas vraiment de cynisme pour lui. J'en discute avec Philippe Léger, notre analyste politique. Bonjour, Philippe.
Bonjour, Philippe.
Et Geneviève Peterson, qui est une régulière au duel de l'actu. Bonjour, Geneviève.
Salut.
Alors, Philippe, je commence avec toi. Est-ce que la démission de Pierre Fitzgibbon alimente le cynisme envers les politiciens?
Mais la première chose que j'ai envie de dire, c'est que Pierre Fitzgibbon lui-même, dans sa personne, n'alimentait pas le cynisme. Sa candeur, son honnêteté, le fait qu'il était direct. Par exemple, lorsque tu lui poses la question il y a quelques minutes sur « Est-ce que ton départ alimente le cynisme? » Pierre Fitzgibbon n'utilise pas de faux fuyant puis la langue de bois. Là. Il dit « Oui, peut-être que ça alimente le cynisme. » Donc, cette honnêteté-là que Pierre Fitzgibbon a toujours eu envers les Québécois depuis 2018, ça n'alimente pas le cynisme. Ceci étant dit, le fait qu'aujourd'hui, il rompe le contrat, le pacte qu'il a signé avec les Québécois en 2022 lorsque les gens de Terrebonne l'ont élu, se sont déplacés dans les urnes, ont coché le nom de Fitzgibbon pour un mandat de 4 ans avec une très grosse majorité. Ça, pour moi, le fait de quitter en plein milieu pour des raisons qui sont des raisons qui sont assez de motivation. La motivation, ça peut monter, ça peut descendre. Pour moi, oui, ça alimente le cynisme. Et à ça, on peut rajouter quelques autres éléments. Le premier élément qu'on peut ajouter, Pierre Fitzgibbon a ouvert un débat depuis quelques années sur la transition énergétique, sur l'efficacité énergétique, sur la production d'électricité. C'est énorme les répercussions que Pierre Fitzgibbon a ouvert comme débat dans nos vies sur l'éolien, sur les tarifs d'électricité, sur le nucléaire. On en a parlé quelques minutes avec lui. Écoutez, là, si on ouvre la production de nucléaire, puis Fitzgibbon a ouvert ce débat-là, mais il s'en va avant de tenir réellement ce débat-là. Pour moi, ça alimente le cynisme. Il a déposé un projet de loi en juin dernier. Il ne sera pas là pour l'étudier. Et c'est pas vrai que quelqu'un au gouvernement du Québec ait la connaissance de Pierre Fitzgibbon sur son projet de loi qu'il a déposé. Donc, le fait de quitter en plein milieu, en raison d'une raison de motivation, pour moi, oui, ça lui manque le cynisme, puis oui, ça ressemble à un déserteur d'un gouvernement.
Geneviève.
Ah, écoutez, quand je l'entends dire, non, mais il y a tellement d'affaires. J'essaie de rester calme. Non, mais quand je l'entends dire, je quitte avec le sentiment du devoir accompli. Tu sais, j'ai pas le choix, faut que je la sorte, la célèbre phrase de Spider-Man, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Et pourquoi je cite Spider-Man? Ben, c'est que c'est un super-héros et on a souvent qualifié Pierre Fitzgibbon de super-ministre. Donc, je vais vous dire qu'aujourd'hui, il n'est peut-être pas le héros auquel on s'attendait. Il nous laisse un peu tomber, hein, parce que non, il n'a pas accompli son devoir. Il l'a abandonné avant la fin. Puis tu le disais, Philippe, ça, je suis assez d'accord avec toi. Il nous abandonne, entre guillemets, à la veille du plus grand chantier peut-être que le Québec a reconnu dans son histoire. C'est comme s'il se disait, ben après moi, le déluge, je vous laisse quasiment une terre brûlée. Je sais que c'est pas ça, là. Puis je veux pas enlever à Pierre Fitzgibbon ses accomplissements parce que quand même, aujourd'hui, même les oppositions, j'entendais Marois Risky ce matin à Patrick Lagacé dire que c'était un ministre transparent, proactif, très, très impliqué. Même la mairesse de Montréal le disait. Tu sais, il avait les défauts de ses qualités. Pierre Fitzgibbon, tu savais à quoi t'en tenir. Tu sais, maintenant qu'on a dit ça, moi, je veux parler de l'espèce de catastrophe de communication que c'est pour la CAQ, parce qu'on le sait, la politique, en grande partie, c'est une game de communication. Et là, en ce moment, cette partie-là, ben je m'excuse, il y a une méchante pente à remonter, parce que rappelez-vous, là, il y a à peine quelques semaines, tu sais, on a commencé à nous préparer, là, ça fait longtemps. Là, on nous disait, ah, je vais avoir 70 ans, je m'en viens vieux. Mais ils savaient, là, 2 ans, qu'il allait avoir 70 ans. sais, je veux dire, c'était pas comme un secret, là. Il s'est pas réveillé un matin en disant, ah, je vais avoir 70 ans. Donc, de dire, ah, j'ai plus la même passion, j'ai plus, tu sais, le même désir, si on veut, de pousser vers l'avant, je veux dire, tu sais, à un moment donné, ça fait un peu discours excuse. T'sais, je veux dire, moi non plus, j'ai pas toujours la même passion quand je vais travailler, puis je vais travailler quand même. T'sais, non, mais c'est vrai. Je trouve ça un peu fascinant. T'sais, en même temps, est-ce qu'on veut un ministre pas motivé? Puis il y a toute la question du timing aussi. Là. T'sais, on le sait, là, François Legault, c'est lui qui a dit de démissionner avant la session parlementaire. T'sais, c'est mieux de démissionner maintenant que de démissionner au mois de décembre. Mais dans l'idéal, c'est sûr que tu finis ton mandat.
Ben écoute,
c'est clair et net.
Ce que tu dis sur François Legault aussi a une responsabilité là-dedans.
Ben absolument.
On comprend l'histoire qu'on parle à des caquistes. J'ai parlé à certains caquistes qu'il y avait un deal entre François Legault et Pierre Fitzgibbon que pendant les premières années, il serait là et que peut-être qu'il quitterait en cours de route. Moi, je suis persuadé que François Legault pensait convaincre Pierre Fitzgibbon au courant des deux dernières années en disant, OK, il va probablement rester jusqu'à la toute fin. Ce ne fut pas le cas. Mais juste le fait que le premier ministre et son ministre, son super ministre, le ministre de l'économie et de l'énergie, signent un genre, il n'y a pas de signature officielle, mais s'entendre sur un deal de cette nature-là, pour moi, il y a une question démocratique qu'on peut se poser. Mmh. Et on peut même ajouter à ça une autre couche. Quand Pierre Fitzgibbon dit « OK, moi, je le quittais en décembre », la version officielle, c'est ça, la version officielle du gouvernement, c'est « Moi, je le quittais en décembre ».
C'est ce qu'il a dit tantôt.
Le fait que François Legault dise « Ah, si tu es en décembre pour des considérations stratégiques, donc pour la stratégie, pour la communication, tu vas devenir une distraction. » Pour moi, il y a aussi une question de cynisme, de démocratie à se poser là-dedans, parce que le fait qu'il fait en sorte de mettre de côté Pierre Fitzgibbon, ben c'est lui qui l'empêche d'étudier le projet de loi puis de l'adopter en décembre prochain au nom de considérations stratégiques. Donc, il y a aussi cette question-là de cynisme qu'on peut se poser envers le PM Legault.
Oui, mais si tu es François Legault, là, Geneviève, il me semble que tu veux que ton ministre, potentiellement le plus important, parce qu'il est en charge du développement économique du Québec, puis l'économie, c'est ça qui va, les résultats économiques, c'est ça qui va financer le reste, les services, la santé, l'éducation. Mm-hmm. Il me semble que tu veux qu'il soit pleinement engagé. Il me semble que la journée, il va te voir puis te dit « Ah, je me sens un peu démotivé. »
Mais c'était pas ça dès le départ, il est là pendant 2 ans.
Attendez, moi, j'ai toujours l'impression qu'il a été là, qu'on y a toujours un peu tiré la manche. Là, c'est-à-dire, t'sais, rappelez-vous, là, il y a eu plusieurs problèmes avec la commissaire à l'éthique. T'sais, il s'est un peu fait tuer, là, Pierre Fitzgibbon, j'ai l'impression, au gouvernement. C'était pas dans son ADN, c'était pas la façon dont il était habitué de faire des affaires. En même temps, si on veut des gens qui connaissent réellement les finances, l'économie, il faut aller chercher des gens qui évoluent dans le monde des affaires. T'sais, la vraie raison, moi, je pense que c'est celle-là, tu sais, au final, parce que, tu sais, je veux dire, Pierre Fitzgibbon, François Legault, c'est sûr qu'il ne souhaitait pas le voir partir. T'as raison, Philippe, mais en même temps, je veux dire, tu veux pas avoir d'un ministre qui fait sa job à moitié, qui a un pied en dedans, un pied dehors. Puis je veux revenir sur, justement, le cynisme, parce que par rapport au fait aussi que Pierre Fitzgibbon, tu sais, vient du monde des affaires, puis ça y a souvent été reproché, ces espèces de liens encore un peu ténus avec, bon, ces vieux chums du monde des affaires. Mais je suis allée voir un peu ce qu'il se disait sur les médias sociaux. Tu sais, le bon peuple, tu sais, dans le sens, c'est bon d'aller voir ça des fois, ce que les gens pensent que ça donne comme impression, ben c'est plate parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ben c'est ça, il est allé au gouvernement pour se voter des affaires en conseil de faire des lois, puis après ça, ben il va aller se consoler en rejoignant des conseils d'administration de ses amis qui auront profité au passage de son passage en politique. C'est ça que les gens, beaucoup de gens pensent en ce moment, et ça, je trouve ça catastrophique. Je trouve ça épouvantable parce que c'est pas nécessairement vrai, c'est pas ça que je suis en train de dire, là. Mais qu'il y ait un nombre considérable de personnes qui pensent ça, c'est un problème pour le gouvernement.
Ben, c'est la preuve que le cynisme envers les politiciens existe déjà, là.
Ouais,
mais
il va mieux que jamais, là, je te dirais.
Mais ouais, c'est ça.
Ben, écoute. Pierre Fitzgibbon n'était pas reconnu pour avoir le plus grand respect pour les institutions parlementaires à Québec. Ben, là, c'est le plus compliqué. Et moi, j'ai envie de faire un lien. Parce qu'on entend beaucoup ça, là. Dire, le monde des affaires ne veut pas aller en politique, c'est difficile pour le monde des affaires. Moi, c'est pas vrai, là. C'est un peu de la bouillie pour les chats, là.
Pierre Fitzgibbon. Ouais, ben voyons, attends, qu'est-ce que tu dis là. Il y a 10 millions de règlements, là. Arrête.
Attends, oui, il y a des règlements, mais bien sûr, mais si ces règlements-là ont été mis en branle, ont été mis en œuvre, ont été votés, c'est parce que ça pouvait créer des problèmes d'intérêt entre des avoirs que tu peux avoir d'une entreprise. Ben oui. Et ça, c'est pour ça qu'ils ont été mis en branle. Je ne sais pas pourquoi il y avait des règles pour tout le monde, sauf pour Pierre Fitzgibbon, qui a reçu 3 blâmes, 6 enquêtes. Moi, ça m'a toujours posé problème. Moi, je vais vous faire un lien, qui est peut-être un lien qui est un peu brouillon, je l'admets.
Bon. Mais
je l'admets d'abord. Des fois, ça affaiblit l'argument.
Un argument mou, comme tu le dis souvent.
Non, mais écoutez, à Catherine Dorion, là, on y a reproché tout ce qu'on pouvait reprocher sur sa relation aux institutions. On lui a dit qu'elle alimentait elle-même le cynisme.
C'est vrai.
Et là, Pierre Fitzgibbon, il y a un peu un peu de Catherine Dorion. Là. C'est un peu bizarre ce que je dis. Là.
Non, mais je comprends.
Il y a un peu de Catherine Dorion là-dedans, dans une façon de faire qui lui plaisait strictement à lui-même ou à elle-même. Et j'ai l'impression qu'on a été beaucoup plus dur envers Catherine Dorion qu'envers Pierre Fitzgibbon. Je me demande si c'est pas parce que c'est pas le métier qui est derrière. Le fait qu'il est un homme d'affaires, on lui a permis des choses à Pierre Fitzgibbon. Je suis pas sûr que si c'était quelqu'un d'autre.
C'est un monsieur d'un certain âge, c'est pas une jeune punk poète, c'est sûr qu'on l'en le laisse.
C'est vraiment intéressant davantage. Comme comparaison. Non, c'est pas si boiteux que ça.
Non, moi, j'achète quand même.
J'imagine que si Catherine Dorion nous écoute, elle doit être surprise de se voir.